et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies.
Les violences sont hausses contre les professionnels de santé.
Tu lui es dimanche.
Mais, écoute, je condamne évidemment toutes les violences.
L'avocat a tenté d'expliquer à la justice que Jérôme Cahuzac avait déjà payé sa dette.
Nicolas Sarkozy coupable et condamné pour corruption.
Oh wow, I didn't realize we're completely surrounded by police officers. Do these guys come out a lot?
Attends, la police, ils sont là, parce que là, il y a la caméra.
Le rap et la politique n'ont jamais fait bon ménage. Depuis sa création, dans les années 70, aux États-Unis, le mouvement hip-hop s'est battu pour dénoncer les injustices instaurées par un système inégalitaire qui pénalise les classes les plus démunies.
Hip-hop really is about like fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers.
Hip-hop, you know, I think it's like crying, it's like a scream from the ghetto, like, you know what I mean? Like, yo, let's go, this is what's going on here.
Au fil des années, un véritable rapport de force est ainsi peu à peu installé entre d'un côté les banlieues et de l'autre la société ou ce que beaucoup appellent le système.
On prend le commandement, lentement, le gouvernementement, déconnecte tes branchements.
J'ai 6 millions de raisons de perdre la mienne. Le système développe trop de pièges.
Ils sont pas captés que le système veut juste leur mettre au fond.
Le système, l'ennemi, je mets pas en étant moi-même en paix. Quand cette folie, échec et victoire deviennent complémentaires.
La première fois que j'ai vu la vérité en face, ouais, j'ai dû comprendre le système qu'on mettait en place.
Okay. C'est l'engrenage plus l'engluage. J'en pense au système et ses rouages. J'suis trop dégoûté par ce monde.
Il faut qu'on s'écarte de la machine véreuse. Et maintenant dis-leur qu'on sait qui provoque la montée des délinquants.
Moi j'ai toujours la mienne, c'est pas moi, c'est la société qui m'aliène. C'est eux qui me guettent comme un alien dans ma voiture allemande et couture italienne.
Je te fais part de l'état d'esprit, des quartiers que l'état méprise, où le fric se révèle indispensable.
Revenons ensemble sur ces 50 années de conflits qui ont marqué à tout jamais une division entre deux mondes, deux idéologies, deux strates de notre société. À l'origine de cette opposition entre le rap et le système, tout part d'un mouvement, le hip-hop. Le hip-hop naît dans les années 70, à New York, à une époque où les inégalités entre afro-américains et blancs atteignent leur paroxysme. On comprend donc que le mouvement hip-hop n'est pas qu'un simple courant qui viendrait s'ajouter à une longue liste exhaustive d'autres genres musicaux. C'est en fait un véritable dogme philosophique, une manière libre de penser, qui découle de siècles de combats contre le racisme et l'oppression des noirs à travers le monde entier. Une oppression qui a duré trop longtemps et qui, un jour, a poussé les minorités à se révolter à travers une musique, le rap. On considère souvent Joseph Stadler comme le pionnier du mouvement hip-hop. Et ça, c'est pas sans raison. En effet, il est connu comme étant l'un des premiers artistes à avoir produit un morceau de rap à la fois engagé et diffusé à la radio. Avec The Message, celui que l'on surnommait Grandmaster Flash dénonce les conditions déplorables dans lesquelles se trouvent confrontés les habitants des ghettos new-yorkais dans les années 80. Au-delà de l'aspect révolutionnaire du morceau, c'est surtout une grande nouveauté aux États-Unis puisque c'est la première fois que les Américains entendent du rap. En fait, quand le morceau sort, c'est un choc. Personne n'a jamais écouté ce genre de musique et cette façon de parler sur une musique. Et pourtant, ça marche. L'Amérique tout entière se mange le son et fredonne les passages rappés du morceau entre deux stations de métro. C'est à la naissance de la gentrification du rap aux États-Unis. Les classes aisées se mettent alors à écouter du rap. Les frontières commencent à se réduire, le mouvement hip-hop porte peu à peu ses fruits. Si le mouvement hip-hop s'agrandit, c'est pas pour autant que les discriminations et les inégalités cessent. On arrive en 1990 et les bavures policières font rage à New York et dans les différents ghettos des États-Unis où les Afro-Américains sont retranchés et exclus de la société. De nombreuses grandes têtes d'affiche font alors leur apparition sur la scène rap et dénoncent les inégalités dans le pays. Ces nouveaux rappeurs sont entre autres Tupac, Biggie, Nas, Snoop Dogg, Dr. Dre ou encore Jay-Z. On assiste alors à la naissance du gangsta rap, un style de rap où les artistes proclament clairement leur affiliation au milieu du crime et au cartel de drogue, tout en condamnant pleinement les violences policières commises sur les populations noires. En 1992, les violences s'aggravent et la situation dégénère. Des émeutes éclatent alors dans l'état de Californie et donnent lieu au légendaire titre de Dr. Dre, « The Day the Niggas Took Over ». qu'on peut traduire en français par « le jour où les Noirs se sont soulevés ».
Ce côté chaotique, on va le retrouver dans le thème des émeutes de 92 à Los Angeles. Ça a un écho avec notre époque actuelle, car un homme noir du nom de Rodney King sera injustement battu par 4 officiers de police qui seront reconnus plus tard innocents de brutalité policière. Alors que quand on regarde les photos et les vidéos de l'arrestation, c'est assez clair. Cette injustice, elle amènera une révolte dans tout LA et ça sera filmé par Matthew McDaniel. Et l'extrait de ce reportage ouvrira le morceau « The Days... » Bon, vous savez lire. En fait, les interludes des émeutes vont carrément servir de passe-passe entre les couplets de Dre, Snoop, Daz et RBX.
À cette période, le rap, qui dispose d'une tribune d'auditeurs de plus en plus large, va donc contribuer à dénoncer ces crimes commis par les représentants de la justice, tout en poussant les jeunes issus des ghettos à se rebeller contre le système et à proclamer leur indépendance. La haute classe de la société américaine voit alors le rap comme une sous-culture très dangereuse, risquant de pervertir la jeunesse en les poussant aux pires tentations possibles telles que la haine, la violence, le sexe, la drogue, etc. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers objets de censure contre le rap, notamment avec ce fameux logo que vous connaissez tous et qui est aujourd'hui considéré comme un symbole de la culture hip-hop. Pendant plusieurs années, de nombreux groupes de hip-hop seront également interdits de scène. Malgré toutes ces censures, cela n'empêchera pas à des albums légendaires de faire leur apparition. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the bump, but I don't think they know it. Straight to the death. Parmi eux, Illmatic de Nas, All Eyes on Me de Tupac ou encore Ready to Die de The Notorious Big. Trois classiques qui permettront également quelques années plus tard d'ouvrir la porte à d'autres rappeurs talentueux comme Jay-Z ou encore Dr. Dre. Malgré ce nouveau succès, le rap reste toujours mal vu aux États-Unis. De plus, il y a un nouveau problème. Le rap est une musique pratiquée exclusivement par des Afro-Américains et laisse donc la libre expression à des personnes à la peau noire. Ce qui ne plaît pas du tout à la haute société américaine. On est donc à la fin des années 90 dans une Amérique toujours aussi marquée par le racisme et qui voit d'un très mauvais œil l'émancipation des Afro-Américains à travers ce nouveau genre musical. Le gouvernement américain continue alors de restreindre le rap avec des censures régulières, forçant ainsi le hip-hop à se positionner comme une sous-culture prônant la haine et la violence. Et c'est alors qu'un jeune homme blanc, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, va venir à la rescousse du hip-hop pour lui donner la place qu'il mérite. Celle de la première musique écoutée à travers toute l'Amérique. Fucking faggots. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Yeah, yeah. Will the real Slim Shady please stand up? Uh-huh. I repeat, will the real Slim Shady please stand up? I think we're gonna have a problem here. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Soutenu par son producteur Dr. Dre, Eminem devient ainsi l'un des premiers rappeurs blancs reconnus à la fois par le grand public et par ses pairs, les rappeurs. La destruction de cette barrière raciale va donc permettre au hip-hop de propulser le rap au sommet de son art et de le rendre accessible à toute personne, peu importe son origine ou sa couleur de peau. Le rap devient ainsi, au début des années 2000, la musique la plus écoutée aux États-Unis et un symbole de rassemblement et d'union des différentes couches et cultures de la société américaine. Tout le monde écoute du rap. C'est ce qu'on a appelé plus tard la fièvre du hip-hop. Le hip-hop, malgré les censures, malgré son rejet, malgré sa différence, a gagné et n'a plus qu'un seul objectif, combattre le système qui oppresse les minorités et qui ne laisse aucune chance aux classes les plus pauvres de la société. Pendant ce temps-là, en France, le même combat fait rage. On est au début des années 80. De nombreux immigrés africains sont entassés aux alentours de Paris, dans ce qu'on appelle les banlieues ou les cités parisiennes. Dans la rue, c'est vente de drogue, règlement de compte et trafic en tout genre. Les banlieues, tout comme les ghettos aux États-Unis, sont elles aussi soumises à de violentes répressions par la police et mises à l'écart de la société. C'est alors que le mouvement hip-hop décide de faire son entrée en France. On assiste ainsi à l'émergence d'un premier vent de révolte dans les quartiers populaires. En 1988, c'est la première fois qu'un groupe de rap apparaît à la télévision française.
Dans le diamant des raps, le rap abreuve nos sillons viniliques. Le rap est une mode qui vient de New York City et de ses banlieues crades.
Un rap.
On écrit une chanson. Une fois qu'on a écrit la chanson, on compose un beat, un rythme, suivant la chanson. Par exemple, ça, c'est un beat, ce qu'on entend là, qu'on a fait avec DJ Joe.
Le groupe Assassin sera l'un des précurseurs du mouvement hip-hop en France. Il est formé en 1985 par Rocking Squat et Solo, rapidement rejoint par DJ Clyde, puis Dr. L. Je vais pas vous retracer toute l'histoire du rap français, puisque c'est pas le but de cet article, et que le youtubeur Raska le fait déjà très bien dans une de ses vidéos. Je vous laisse aller la checker si ça vous intéresse. Revenons donc à notre sujet, le rap versus le système. Vous le savez sûrement, mais dans les années 80, les grandes stars de la chanson proviennent du rock. Les Rolling Stones, les Beatles, Queen, les Stooges, Indochine, les Pixies, Police ou encore Nirvana, voici quelques-uns des nombreux groupes qui ont dominé la scène musicale mondiale des années 1960 à 1990. D'ailleurs, beaucoup de ces artistes contribuaient déjà, avant même l'apparition du rap, à dénoncer les inégalités et à combattre le système autoritaire et impérialiste mis en place par nos sociétés modernes. La ressemblance entre le rock et le rap, de par ses codes et ses aspirations, est donc frappante.
Vous aimez ça, le rap, à part ça ?
Non, a priori, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais j'arrive à écouter les années 60, finalement, moi, c'était le rock et tout, mes idoles, c'était celle qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est celle sur qui il dit du mal.
Dans ce découpé, je dois avouer que ça me plaît bien, quand même, maintenant. D'ailleurs, dans cette espèce de révolte, enfin, je sais pas quoi, enfin, de contestation qu'ils ont, je retrouve des choses qu'on voulait exprimer nous à notre époque d'une autre façon.
Quand on pense hip-hop, on pense rock'n'roll, de par son attitude, de par sa vie, de par ses disques, aussi par son refus d'accepter les conventions.
Foncé, yo, négro, foncé.
Rafa fusil dans la boca négro, y'a des liesses de billets pour l'avocat négro. Quand je monte chier dans un boca négro, si le rap ça marche pas, je vends la coca négro. R.E.S. Vol, j'arrive BG, tu veux me parler, je réponds TG, que Dieu pardonne tous mes péchés, yeah. J'arrive relou, toi t'es léger, yeah, yeah. Bienvenue à tous ceux qui pensent que je suis pas revêt, tous les baisers sur la durée.
Très sale, très très sale.
Tout comme ces différents groupes, le rap arrive dans les années 90 avec un message d'indépendance, de liberté et surtout de revendication. À cette époque, beaucoup de Français considèrent cependant le rap comme une sous-culture, un genre sans réelle identité qui n'apporte rien musicalement parlant. D'autant plus que le rap français utilise la langue de Molière tout en la remettant à la sauce des banlieues pour ainsi en faire ressortir de nouvelles expressions et un nouveau langage propre aux jeunes de cité. Bref, que des éléments qui viennent alimenter le rejet et les critiques à l'encontre du rap.
Moi, je n'ai pas très bien compris vos textes, mais je vous trouve très sympathique, hein, tous les quatre. Je trouve votre aventure collective super. Mais alors, voyez, alors toujours, alors vous allez m'aider, hein, pour le décryptage, toujours un plafon sur le tech. Alors, j'ai cherché plafon, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché dans le dico, j'allais dans le dico des rues.
Un plan.
C'est un vieil argot.
Mais comment vous le savez, ah que là, c'est un plan,
ouais. C'est du vieil argot français, en fait.
Ouais.
C'est un gava, un plafon.
Toujours un plafon sur le tech. Donc on...
Le tech, c'est le côté.
Ok, d'accord. Ouais, non, mais...
Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas.
Si j'aurais grandi ailleurs, je me demande ce que j'aurais été. Je dis si j'aurais, parce que c'est comme ça qu'on parle dans ma cité.
Bonsoir à Aya Nakamura, qui est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, qui chanterait du Piaf, ça humilierait le peuple français.
Mais parce que Aya Nakamura est honnêtement, bon, je vais même pas vous parler de l'entourage, je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non. non plus, elle chante on sait pas quoi.
C'est du métissage.
Non, c'est pas du métissage. C'est du n'importe quoi. Enfin, pardon, regardez, lisez les paroles de ses chansons. C'est pas du métissage. Non, c'est pas vrai.
Cette femme ne chante pas en français.
Pendant des années, et comme ça a été le cas aux États-Unis quelques temps auparavant, le rap sera continuellement rabaissé, censuré et mis à l'écart par la haute société française, les intellectuels, ainsi que les différentes classes politiques du pays. Finalement, on en revient toujours aux mêmes causes. Le rap est pratiqué majoritairement par des Noirs ou des Arabes et ça plaît pas du tout à la France raciste qui s'indigne de cette nouvelle pratique musicale depuis les années 90.
Cette focalisation sur le rap est une focalisation vraiment raciale et de classe. C'est-à-dire, en fait, de dire encore ces gens-là, là, vous savez, ces gens-là, ils ne sont pas aussi civilisés. Excusez-moi, mais en fait, dans le rock, dans les grandes vedettes du rock blanc, vous avez quand même des hyper sexistes, hyper misogynes. Donc, est-ce que ça, du coup, on va condamner le rock ou même dans la chanson, hein, ce qu'on appelle la chanson française. Donc, de toute façon, ça me semble tout à fait de nouveau des espèces d'excuses, en fait, des espèces d'arguments non fondé. Je pense qu'en se focalisant sur le sexisme dans le rap, c'est de nouveau vraiment stigmatiser une communauté. Parce que quand on dit ça, on pense à des rappeurs noirs ou musulmans. On ne pense pas aux rappeurs blancs.
Le rap porte également un message révolutionnaire, voire parfois anarchiste, ce qui, vous vous en doutez, ne plaît pas du tout au gouvernement et à son système bien organisé dont le but est de contrôler et de maintenir la population en place. Dès les premiers morceaux de rap français, on peut donc déjà retrouver cette méfiance vis-à-vis du système et de ses institutions qui prônent la stabilité et les non-dits. C'est aussi avec ces morceaux qu'on retrouve les premiers passages revendicateurs qui viennent réellement souligner les inégalités subies par les habitants des quartiers populaires.
On n'est pas nés sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler? Juste
la crise a consumé le ghetto et ses rejetons. Le sort est toujours plus vicieux avec ceux qu'on a rejetés. Les jetons, ça rentre, ça sort, la vie c'est pas un feuilleton.
De toute façon y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issue la rue.
Les commerciales ou corrompus sont les juges. Mes frères ils sont jugés à la gruge. Pour une âme trouvée dans un QG, là j'accuse des jurés. Pourtant ils avaient juré de parents d'un verdict puré.
Des dizaines d'années plus tard, ce sont ces mêmes inégalités que viendront dénoncer des rappeurs comme Népal ou encore Nekfeu à l'encontre de ce même système dit capitaliste. En plus d'être très protestataire, Nekfeu est sûrement l'un des rappeurs qu'on pourrait le plus qualifier d'antisystème. Les entreprises, l'individualisme occidental, la bourse, le commerce, le chantage au salaire, tout ça pour lui, c'est du vent. Du vent que nous souffle la société qui présente ce système comme le seul et unique moyen pour réussir sa vie.
Il vaut 20 millions le kilo.
20 millions le kilo. Que seriez-vous capable de faire pour cette somme? Vous voyez, dans le monde réel, des gens se battent pour beaucoup moins. Mais avant de juger, il est important de comprendre que l'état de notre conscience collective est corrompu par les systèmes en place. Des systèmes fondamentalement discutables et conçus essentiellement pour maintenir un contrôle et une cohésion de masse. Ils sont pensés pour servir les intérêts des pays et des firmes partout dans le monde. La création de la monnaie sur laquelle est basée toute l'économie mondiale est l'un des cancers qui frappe notre espèce. Une monnaie conceptuelle, digitale ou papier, sans valeur si ce n'est celle de la confiance. Une confiance qu'une crise sanitaire, sociale ou écologique peut largement ébranler. Pourtant, dans notre tête et dans nos vies, l'argent déplace un nuancier considérable d'émotions et de comportements parfois individualistes et auto-centrés qui nous éloignent les uns des autres et entretiennent l'idée de la séparation.
Avant je voulais que des Nike, le système nous rend bête, j'ai pas pris la grosse tête depuis l'époque de GoldenEye.
Sincèrement, j'en fais le serment, je vais combattre le système en m'en servant.
Le système te permet de voler, mais c'est pas des ailes, c'est des hélices. Contrôle-toi ou fais-toi contrôler, on peut être libre ou prisonnier de ses vices. Et
face à ces idées qu'on subit, je sais la cécité te séduit. Nombril égocentré, très peu s'entraide. Triste ironie d'une société de service.
L'éducation t'a fait des apprendre des choses essentielles que tu savais déjà. Surtout n'oublie pas qu'aventurier.
J'n'attends rien des autres, tout le monde est perdu. Tu te répètes de verre, tu te répètes d'ouverture. Je me sens coincé, j'ai besoin d'air, plus rien me perd dans la vie. Le moindre trait venant de nos vies est kilométré. Et tous nos avis et tous nos attraits, toutes nos envies sont paramétrées. Tout ce que l'on crée est chronométré. Mais loin de la ville, je me remettrai.
Toute la noche, jambes allongées devant nos chaînes. Cette impression de perdre son temps, s'étouffer dans cette vie toute faite. Se sentant faible en sachant que la vie est une fête où personne danse.
Et vivre, c'est pas bosser comme un dingue. Dodo, métro, comment ils disent déjà là-bas à Paris, je me rappelle plus. Métro, boulot, dodo, oui. C'est pas vrai, ça, c'est pas vivre. Ça, c'est être esclave. La plus grande trouvaille du XXe siècle, c'est l'abolition de l'esclavage. Ils ont remplacé ça par le pognon. Putain de Dieu, c'est bien mieux. Hein.
Si vous regardez votre écran 8 heures par jour, ce qui malheureusement commence à être le cas pour un certain nombre de gens, à la fois pour travailler, à la fois parce que vous êtes sur votre smartphone, à la fois parce que vous regardez la télé, vous allez passer à peu près 27 ans de votre vie derrière un écran. Si vous passez 8 heures à dormir, vous allez passer 27 ans de votre vie à dormir. Ça veut dire 54 ans derrière un écran ou dans votre lit. Ça veut dire qu'il reste combien de temps pour le reste ? Il reste combien de temps pour vivre des relations extraordinaires, pour faire l'amour, pour lire de la poésie, pour marcher dans la nature, pour se poser des questions sur le monde ? Et pour moi, ce monde moderne qui fait une espèce de chantage au salaire, c'est-à-dire que il y a plein d'anthropologues qui se sont penchés sur la question, c'est-à-dire qui nous a enfermés dans une espèce de système où il faut gagner sa vie, nous a d'une certaine manière détourné du sens de nos existences.
Je refuse de donner 8 heures de ma vie par jour pour pouvoir vivre 2 heures et un week-end.
Mais comment emploies-tu ces 8 heures par jour alors ?
Mais je te dis à vivre enfin quoi. Le travail obligatoire n'a pas toujours existé. Je vis, j'écoute mes amis qui jouent de la musique, je peins, je me promène, je regarde la nature, je discute avec mes amis, j'établis des contacts.
À l'image des groupes de rock des années 70 ou encore du mouvement de révolte de mai 68, le rappeur parisien dénonce donc ce système capitaliste qui transforme les gens en zombies. Ces derniers prêts à tout pour sacrifier leur temps au profit de l'argent, en oubliant le simple fait de vivre pleinement leur vie, d'approfondir leur passion ou encore de s'émerveiller de la beauté de la vie sur Terre. Cette philosophie, on peut également la retrouver dans certains textes du rappeur Népal, dont le magnifique titre Trajectoire, présent sur un album classique du rap français, Adios Bahamas.
C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qu'ils ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité en fait.
Enfin, on peut également retrouver ce même combat face au capitalisme et au fameux métro boulot dodo dans les textes de Joss Man, Vald ou encore Damso.
Je suis hésitant car légal ou pas, tout le monde cherche le ralice. Yeah. Pas le choix dans société capitaliste. Qui sait poteau, la vie c'est loin des contes féeriques. Comment peut-on être aussi pauvre d'esprit dans un pays riche? Ah, y'a pas que ceux qui font plein d'études, qui sont plein d'études, je pourrais devenir dingue.
Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Depuis tout petit dans la merde. Tu sais qu'il faudra mailler. Au moins un peu pour loyer. Au moins un peu pour grailler.
Je pense aux milliardaires. Qui bloque le jeu, c'est pas fair play.
Que les milliardaires, oui. Par leur travail, leur investissement.
On n'a pas 12 milliards par son travail, c'est pas possible.
S'enrichissent.
Arnaud, il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille, c'est pas possible. Ou alors, il a un super diplôme et on ne sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. Ça, c'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse, à ce niveau-là, c'est du vol.
Mais comment pouvez-vous dire ça?
Mais parce que. Mais comment. Comment vous pouvez penser qu'on peut avoir 12 milliards comme ça?
Je ne les ai pas.
Si vous utilisez les 12 milliards sur l'histoire de l'humanité, à partir de quand il faudra avoir bossé pour pouvoir avoir 12 milliards en comptant qu'on ait 2000 euros par mois?
Donc c'est ce système.
C'est incroyable.
C'est ce système que vous voulez mettre.
On peut vivre avec 1 million d'euros, par exemple, ce serait presque raisonnable 1 million d'euros. Mais pourquoi 12 milliards? Pourquoi 150 milliards? Et c'est ça qui fait que.
On est à peine riche, quoi, avec 1 million d'euros.
C'est du vol parce qu'en fait, cette richesse-là, elle vient du pillage de la richesse collective. Il y a des très riches parce qu'il y a des très pauvres. C'est pas une fatalité. Il n'y a pas des pauvres parce qu'on peut pas faire. C'est parce qu'il y a un système qui fabrique ça.
Je passe mon temps à rêver prendre l'air. Putain de merde. Large baie vitre, bureau, phone secrétaire. Équivaut réussite urbaine sur la terre. Je serai rappeur plus tard, maman, faut pas t'en faire.
J'ai profité, quitte à pêcher. Car la vie ne fait que 60 années.
Et t'as une approche aussi de la vieillesse et de la vie et la mort assez particulière. Dans le morceau 60 années, bah, tu portes un regard vers la mort à travers la vieillesse. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur, la mort, ou c'est quelque chose justement que t'appréhendes et que tu comprends?
C'est vraiment pas la mort qui me fait peur, c'est le regret dans la propre vie. C'est ça qui m'effraie. La vie, c'est quoi? C'est tu travailles pour ne plus pouvoir travailler plus tard, la retraite. Mais pendant ce temps-là, quand tu travailles, tu charbonnes, tu te rends pas compte, le temps il passe, et quand tu dois prendre ta retraite, ben, t'es trop vieux pour pouvoir faire des activités, tu te sens baisé, tu vois. Et je me dis, ben, autant profiter tout le temps, un maximum, de se rendre compte du temps qui passe, de profiter à fond, et quand t'arrives à 60 ans, tu sais plus bouger, t'as aucun regret. C'est plus dans cette vision-là, et que t'es là, ta vie était très cool, et qu'on te dit demain tu meurs, tu dis, ah, bah, cool, bah, tu fais tes bagages.
Mais revenons à notre récit de départ, quelques années en arrière. Influencé par les premiers grands acteurs du mouvement hip-hop, comme IAM ou encore NTM, des nouvelles figures du rap font peu à peu leur apparition dans la scène rap française au début des années 2000. Les nouveaux Rookies sont composés de groupes de rappeurs comme Lunatic, La Scred Connection ou encore Sniper. À cette époque, le rap est plus que jamais catégorisé comme étant une musique de cité, écoutée principalement par les jeunes de banlieue. Les inégalités se perpétuent et la frontière séparant les racailles des classes les plus aisées ne fait que s'agrandir. Ce qui n'empêche pas pour autant les rappeurs de dénoncer les injustices commises dans leur pays. C'est l'ère du rap conscient.
Lunatic, Booba Ali, 9 de I, Alavi, Inch'Allah, Général.
Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien.
Pour réveiller ce racisme historique, il y a 4 ans c'était l'euphorie. Les yeux dans les bleus story. Puis des journalistes ont ramené la vie sociale vers un faux rythme.
Dans ce rap biz, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile bide, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage.
On arrive maintenant en 2004. Le FN est au plus haut dans les sondages. 2 ans auparavant, le père de Marine Le Pen se trouvait déjà au second tour des présidentielles, provoquant alors un raz-de-marée de révolte et d'indignation à travers toute la France face à ce racisme grandissant. Un événement qui aura également marqué une jeune rappeuse, alors débutant dans un milieu artistique principalement composé d'hommes, je parle bien entendu de la rappeuse Diams. Dans son morceau, intitulé Marine, cette dernière écrit une sorte de lettre rappée adressée à la fille du chef du parti politique d'extrême droite. Avec la répétition du prénom Marine au début de chaque mesure, Diams nous livre alors un texte émouvant et moralisateur qui s'applique à éveiller les consciences quant au danger du FN.
Marine, dans le pays de Marianne, il y a l'amour, il y a la guerre, mais aussi le mariage. Marine, pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition?
La haine, le rejet, la colère, l'isolement, voilà tout ce que propose ce parti politique qui, selon elle, s'oppose totalement à la vision du mouvement hip-hop. Un courant qui, à la base, souhaitait certes dénoncer les inégalités, mais aussi et avant tout mettre en avant les ressemblances entre les différentes origines et cultures au sein d'un pays imprégné par la force du métissage. En fait, ce que fait Diams dans ce morceau, c'est surtout souligner les incohérences totales entre les vieilles idées du parti politique auquel adhère Marine Le Pen et les nouvelles mentalités de l'époque, beaucoup plus axées sur la mixité sociale. L'heure est en effet plus au rassemblement, notamment après les beaux événements de la Coupe du Monde en 98 et de cette fameuse France Black Blanc Beurre. Mais malgré ça, au début des années 2000, une partie du peuple français est toujours réticente au mélange des cultures et prône un retour au nationalisme avec une France aux Français. Avec l'énorme succès qu'on lui connaît, Diams aura finalement été une des premières rappeuses à prendre véritablement position contre un parti politique d'extrême droite. Un grand pas pour le hip-hop en France. Mais le combat continue et la guerre contre le racisme et les inégalités est loin d'être finie. D'ailleurs, à cette époque, contrairement aux États-Unis, le rap français est toujours pas à la mode et une grande partie de la population continue à mépriser ce genre, préférant écouter la musique pop des années 2000 ou le rap américain. On arrive en 2006. Nicolas Sarkozy va bientôt être élu président de la République et le racisme ne fait qu'augmenter en France. Le rappeur Desporuti sort alors un morceau qui va faire polémique à l'époque et qui est aujourd'hui considéré comme un incontournable du hip-hop français. Dans ce morceau, intitulé Arrêté, le rappeur s'attaque aux politiques, mais aussi et surtout à tout un ensemble de médias français qui l'accuse de grossir les traits et de nourrir les clichés sur les mecs de cité. Le rappeur s'insurge également contre l'extrême droite et contre toutes les personnes qui commettent des actes de racisme dans son pays.
Que c'est bien, que c'est l'avenir. Non, c'est pas l'avenir. Le métissage, c'est l'horreur. Un chien qui se métisse avec un autre, ça s'appelle un bâtard. Moi, je veux pas d'une race bâtarde. C'est tout. Je veux un avenir blanc pour mon pays, pour mon continent. Faut arrêter le massacre.
Despo Roots, mauvaise graine dans ta vie. Aime sur la jambe, à la base, je suis un bosseur. Arrêtez les fouilles musclées, bande de chiens bosseurs. Arrêtez de montrer sur TFA des perquisitions avec nos mères en pleurs. Sinon, on fera toujours des clips anti-flics, c'est mort. Tu mets des amendes à nos mamans noires et arabes qui souffrent pour nous faire graille. Tu sers pas la main, trop duc. Arrêtez de dépouiller le diamant de mon bled, le Zahir. J'arrêterai de vous haïr. Venez plus chercher des voix pendant les élections. Chez les basanés pour les niquer le reste de l'année. Sœur, arrêtez push avant les braqueurs. Oubliez pas de me le déchirer après son mandat. Soyez juste, arrête. Arrêtez d'orienter mes frères et sœurs vers la classe ouvrière au lycée. Confonds pas terroristes et arabes, c'est laid. Oublie pas que Zidane a rendu la France célèbre.
Pour Despo, les médias font donc partie intégrante de ce système qui diffuse les images de haine et contribue ainsi à alimenter le conflit entre les banlieusards et les classes plus aisées de la société. Cet avis continuera d'être partagé par la plupart des rappeurs français de la nouvelle génération quelques années plus tard.
L'immigration aggrave le chômage. 2 millions d'emplois sont actuellement occupés par des étrangers et pourraient l'être par des Français.
Ils veulent juste divertir les pantins, hypocrisie et médiocrité. Les guerres de cité, eux ça leur convient. 32 coups de couteau, une mère qui pleure. Dites aux médias d'y faire la chape. Qu'il y a des héros qui n'ont pas de cap. Des cancéreux qui fument pas de clope. Des millionnaires qui n'ont pas le pack. Des banlieusards qui tiennent pas le bloc. Mais les cités qui vendent pas de drogue, ça n'intéresse pas France 24.
Trop de clichés, mais y'a des noirs qui bossent, y'a des blancs qui bitrapent. Et moi je ne sais pas danser physique.
Je pense qu'on a merdé, gros, c'est évident. Les médias se prennent pour des juges et les juges pour des dieux vivants.
Les petits bibis devant l'Hardiscount, ils s'empêtent les yokou d'Ardisson.
Envoie la gueule trop, envoie la gueule trop, fuck Pascal Pro.
Les hommes en bleu sèment la terreur, n'ont aucun cœur comme Collabo. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro. Ça mérite une balle dans le cervelet.
On arrive ensuite en 2008. Un événement majeur vient de se produire de l'autre côté de l'Atlantique. Barack Obama vient d'être élu président des États-Unis, devenant ainsi le premier homme noir à accéder à ce poste. C'est un changement majeur et une grande victoire contre le racisme aux États-Unis et partout dans le monde. Le problème du racisme est-il réglé pour autant ? Pas vraiment. Et c'est ce que le rappeur Gizmo dénoncera d'ailleurs dans une phrase somptueuse présente sur le morceau « Ma haine est viscérale ».
Dans ma tête, je suis dans un délire, parano et méfiant, Baracko est président, mais je suis toujours un sale nègre.
Entre 2008 et 2012, le rap français connaît une période de creux, avec seulement quelques grosses têtes d'affiches qui se partagent le gâteau. Rof, Lafouine ou encore Booba. Cependant, d'autres rappeurs moins connus par le grand public, comme Salif, Sefyu, Cynic ou encore Tandem, continueront eux aussi de dénoncer un système qu'ils jugent toujours aussi injuste et inégalitaire qu'auparavant.
Au moins deux allumettes, au moins deux allumettes. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes femme.
Je me présente, Molotov, hey. Undercover, hey. Le micro chauffe, hey. Appelle-moi Mr. Over, hey. Moi j'innove, hey. Depuis Radio Nova.
T'es dans la merde, a voulu clasher SNK. T'es dans la merde, tu vas kiffer mon pote si t'as du temps et quelques temps à perdre.
On arrive ensuite en 2012. Après une grande période d'errance, le rap français retrouve de sa superbe avec un nouveau mouvement revenu d'Atlanta, la trappe. Ce genre, qui prône principalement le crime et la violence, donne un second souffle et un air de renouveau au rap français, qui avait peu à peu fini par lasser ses auditeurs avec ses prods boom bap et son rap conscient. Accusé de banaliser la violence et d'influencer la jeunesse, beaucoup de rappeurs, comme Sadek, par exemple, viendront défendre la trappe, et plus globalement le rap en général, en donnant des explications concrètes sur ce genre musical toujours incompris et rejeté par les Français. Selon Sadek, c'est pas le rap, mais la vie elle-même dans les quartiers qui est violente. Les rappeurs ne font alors que retranscrire cette triste réalité dans leurs textes.
Les gens qui vont dire « Ouais, le rap, il est violent, il influence les jeunes. Arrêtez-vous tout de suite, c'est la vie qui est violente et qui influence le rap. » On n'a rien inventé, nous. On n'a rien inventé, on montre juste la photo en entière.
En réalité, loin des images clichés qu'on donne au rap, beaucoup de rappeurs sont pour la paix et le partage. On peut par exemple citer PNL, qui prône l'amour de tous les drapeaux, ou encore Kendrick Lamar, qui insuffle beaucoup de messages d'amour et d'union dans sa musique et dans ses différentes prises de parole.
When are we gonna understand that we are put on earth to love? That's all it's about. It's gonna keep going on. War gonna keep going on. Frustration gonna keep going on. Anger gonna keep going on till we finally go back down to the simplest word, love.
De plus, de nombreux auditeurs de hip-hop insistent sur le fait qu'on ne devient pas violent en écoutant du rap. C'est comme si on allait voir un film de gangster et qu'on avait envie de tuer tout le monde à la sortie du film. Ça n'a absolument aucun sens. En fait, les rappeurs utilisent souvent dans leurs chansons une forme d'ego trip assez violent pour proposer de l'entertainment et divertir leur public. Mais c'est que du divertissement. La question peut alors se poser sur le discernement des jeunes entre le mythe et la réalité.
Ouais, et c'est surtout une fiction.
Ouais, il y a de la fiction, mais il y a de la réalité aussi, tu vois. Mm-hmm. On va pas dire... Les gens, faut pas qu'ils se disent que tout va bien tout le temps, tu vois. Il y en a, ils parlent de choses, c'est gay, mais il y a aussi l'autre côté des choses.
Ouais, bien sûr, mais vu que...
Mais c'est pas pour ça qu'on va dire... On incite à la violence, tu vois.
Mm-hmm. J'ai vu une interview de Booba la dernière fois, c'est vrai que seul un débile mental pourrait aller faire une connerie, pour aller braquer une banque après avoir entendu une attaque. L'être humain est quand même doué d'intelligence. Je veux dire... tu veux aller voir un film Trafic, tu vas pas aller dans la frontière du Mexique vendre de la drogue. Y a aucun problème.
Je sors ma tête de la Audi 80, je sors la Kalash. On a fait cette ligne droite là comme ça. Cette ligne droite là, ça c'est la ligne droite de Zo. C'est vrai que les gens vont dire c'est des calaches et tout ça, c'est violent, mais ça reste du divertissement, c'est de l'entertainment. C'est comme un film en fait. J'ai juste envie de donner du bonheur à ceux qui viennent écouter, ceux qui comprennent que c'est du divertissement.
C'est donc dans ce contexte que des Gradures, Niska ou encore Caris, le roi de la trappe, vont faire leur apparition. Le temps est moins aux revendications, mais plutôt à l'expression d'une liberté individuelle et financière. Cette époque sera par ailleurs qualifiée de la période du rap ego trip. Vu d'un très mauvais œil par le gouvernement et les instances politiques du pays, plusieurs polémiques éclateront tour à tour à propos des textes des rappeurs, notamment auprès d'un jeune rappeur originaire de Caen, accusé de misogynie dans sa chanson Saint-Valentin.
Je laisse la lumière allumée et je garde mes chaussettes. Je vais l'allumer jusqu'à ce qu'elle soit couchée et qu'elle voit des clochettes. J'adore les petites coquines avec des couettes et des fossettes. Je te rends misérable. Tes copines vont t'appeler Cosette.
Par la suite, des dizaines d'autres polémiques s'enchaîneront, continuant ainsi d'alimenter toujours plus les clichés de violence ou encore de non-respect des femmes dans le rap. L'une des polémiques les plus connues est sûrement celle du rappeur Damso, accusé en 2018 d'incitation à la violence et de misogynie.
Le Conseil des femmes francophones regrette la désignation du rappeur Damso.
Pour proposer la chanson des Diables Rouges pour le mondial en 2018.
Les textes du chanteur sont violents et sexiste, un mauvais signal pour la jeunesse.
Faut lire ces textes, moi je n'ose même pas les citer, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui.
Il y a la dimension de la violence. On sait que le monde footballistique est un monde violent, et d'ailleurs on le voit dans les stades. Choisir quelqu'un qui incite à la violence envers les femmes dans ses chansons, est-ce que les gens qui vont écouter...
En fait, ce texte va être compliqué. Parce que je vis des trucs vraiment compliqués.
Toujours la même question.
Ça me fait rire parce que je me dis, le plus beau cadeau que j'ai reçu m'a été donné, offert par la mère de mon enfant, c'est-à-dire la possibilité d'être un père. Et c'est une femme. Donc du coup, je peux pas être misogyne. Enfin, moi, quand je vois ça me fait rire, tu vois, je peux pas l'être.
Plus récemment, c'est le rappeur Freeze Corleone qui était accusé directement d'antisémitisme.
Corleone a 28 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Son dernier album est sorti il y a tout juste une semaine. Et c'est un carton, plus de 15 000 ventes en 3 jours et des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, malgré des propos clairement antisémites. Le rappeur se compare à Adolf Hitler, multiplie les références au nazisme et insulte des juifs célèbres. Sur Twitter, la LICRA dénonce un rappeur qui fait business de son obsession des juifs. Constat partagé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces propos inqualifiables. Une cinquantaine de députés LREM ont également réclamé des sanctions et le parquet de Paris a ouvert une enquête.
Ce dernier répondra à ces accusations par un simple morceau intitulé « Chaque table ».
Et je crache des flammes comme Arcanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin.
Revenons-en à la confrontation entre les rappeurs et les hommes politiques. Dans le paysage politique français, les vagues de délits commises entre 2005 et 2017, comme l'affaire François Fillon, le procès de Nicolas Sarkozy ou encore l'affaire Jérôme Cahuzac, ont poussé certains rappeurs à s'indigner quant à l'ultra-protectionnisme accordé aux politiciens. En fait, ce que les rappeurs reprochent au système judiciaire, c'est pas tant de juger et de condamner des jeunes de banlieue qui tombent dans le trafic ou dans la violence, mais c'est surtout de ne pas appliquer des sanctions égales aux hommes politiques.
Et quelques blémettes. Dans la mer à Manuel Valls, dans la mer à Donald Trump, j'ai des valeurs, je suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent.
Ils sont faits contre nous, donc on enfreint les lois.
M'en voulez pas si je nique vos lois. Si c'est les mêmes pour tout le monde, dis-moi pourquoi c'est dur de s'appeler Moussa.
Tu peux croiser mon regard dans voiture black. Ta comté de France mérite au moins une claque.
Laisse tourner le vinyle quand le système scolaire te
nord. C'est la même du nord au sud.
Laisse tourner le vinyle.
Ceux qui font les lois vivent au sud.
Les rappeurs dénoncent également le fait qu'aucune solution digne de ce nom ne soit proposée aux jeunes de quartier pour s'en sortir. Les classes aisées, de leur côté, pensent seulement à s'octroyer pour elles seules toutes les richesses du pays. En fait, si les jeunes de banlieue tombent dans la vente de drogue et les délits en tout genre, c'est pas tant par choix, mais surtout par survie.
Ouais, j'ai 25 ans et dans un an, je peux leur demander le RSA. Elle veut pas donner de CDI à la crue de Bicraft, j'aimais ça, putain.
La plupart n'ont pas de rêve et ils trouvent les études lassantes. J'ai vu des ex-champions devenir dernier du classement.
En revanche, il faut pas nier que le système qu'on nous propose, c'est un étouffoir.
L'école en banlieue est un étouffoir pour les profs comme pour les élèves.
On sait très bien que l'éducation nationale, c'est-à-dire le terme éducation nationale, voudrait dire que quand tu es dans le système de l'école publique, tu as la même éducation quel que soit le territoire en France où tu vis. Et on sait que c'est absolument pas le cas. En banlieue, bah, faut savoir que les écoles primaires dépendent de la ville. Et si la ville, elle a pas d'oseille, eh ben, ton école, elle a pas d'oseille. C'est aussi simple que ça. Et du coup, pour faire des sorties scolaires, pour faire des trucs intéressants qui sortent un peu de l'école ou pour pas faire du sport juste dans ton préau avec des cerceaux, il faut de l'oseille. Moi, je me rappelle d'école où j'étais, où on n'avait pas de car. Donc, la prof, elle voulait faire une sortie scolaire, mais on n'avait pas de car. On pouvait pas le faire. Alors que t'as des écoles primaires ou des collèges qui font du golf en EPS, qui font des sorties dans les plus beaux musées, qui font des voyages à l'étranger pour apprendre une langue. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait un voyage de ma vie, moi, quand j'étais à Saint-Denis. J'ai même pas fait une classe verte, tu vois, il y avait rien. T'es gamin, t'as 8 ans, 9 ans, 10 ans, et d'entrée, tous les jours, tu rentres dans une inégalité, parce que quelqu'un de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui habite à 5 km de là, mais dans les beaux quartiers, tu grandis pas avec la même chance que lui.
Nique l'alcool, les types sont fucked up. Y'a du taf frais de juillet à octobre. Nique sa mère. Pourquoi le monde se fait la guerre? Les richesses sont mal réparties. Les élites ont l'argent de la terre. Il faudrait juste qu'il les parfuit.
Enfin, et c'est sûrement l'un des points les plus importants de ce conflit entre le rap et la justice française, les rappeurs dénoncent le fait que de vraies sanctions ne soient pas appliquées pour des infractions plus graves qu'une simple vente de drogue. Les violences faites aux femmes sont par exemple un point évoqué par le rappeur PLK dans ses chansons et dans plusieurs de ses interviews. Selon lui, ces actes devraient être beaucoup plus surveillés et sanctionnés par la police plutôt que de traquer des jeunes de cité à longueur de journée.
Ah, mais ils vont pister pendant je sais pas combien de temps. Ils vont mettre des heures dans un sous-marin, dans un machin, pour choper 3 mecs qui vont de 4 barrettes. Mais les mecs, vous êtes fous quoi. Le mec il fume une meuf dans la rue. Y a pas un condé. Les mecs, y a un problème pour les priorités pour les placer.
Et je viens avec le seum comme si c'était mon poteau d'enfance.
Juste regarde, tu vois, quand je vois un petit qui fait une connerie, je vois les condés qui sont chez lui en une heure après ils sont chez lui. Par contre, quand j'entends des histoires où il y a des femmes qui portent plainte 48 fois et qu'il se passe rien du tout jusqu'à ce qu'on les tue, ça m'affole plus, tu vois, parce que quand ils sont forts pour courir derrière des petits, les fracasser, faire des trucs de cons comme ça, mais par contre, dès qu'il y a des histoires à régler, vraiment, ils sont plus là.
On le comprend donc bien, la politique et le rap, ça a jamais été l'amour fou. Et pourtant, un événement va venir faire tout basculer. On arrive en 2015. L'avènement d'une ère nouvelle et libératrice pour le rap français se murmure partout dans le pays. Un nouvel espoir pour le hip-hop. C'est l'arrivée d'un jeune homme de 25 ans qui va littéralement faire basculer le rap français à tout jamais dans une autre dimension. À cette époque, on ne savait pas encore, mais on assiste à ce qu'on va appeler plus tard la gentrification du rap français. Le 8 juin 2015, un jeune rappeur du nom de Nekfeu sort son premier album solo intitulé Feu. C'est alors un véritable raz-de-marée à travers tout le pays. Le jeune rappeur parisien, membre de 1995, écoule, en seulement quelques mois, des milliers d'exemplaires de son album. À noter que quelques années plus tôt, le groupe Section d'Assaut avait lui aussi permis de faire découvrir le rap français au grand public. Mais c'est véritablement avec cet album du rappeur parisien que le rap explose enfin en France. En 2017, le projet sera certifié disque de diamant. Ce qui s'est passé, c'est que Nekfeu a sorti un album de rap, certes, mais avec de nombreux morceaux aux ambiances pop / électro. Notamment avec les titres que vous connaissez tous, On verra, Égérie ou encore Madop.
Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui veillent. Ville de champion, je suis comme une bulle de champagne venue d'en bas. Je veux crever à la surface. Soirée bien arrosée, soirée bien arrosée. Donnez-moi le rosé, donnez-moi le rosé. Le saumon sera rosé, le saumon sera rosé. Le champ sera rosé. Je ne veux pas que l'on porte. Je veux glisser dans ma ville sur un longboard.
Nekfeu permet alors, tout comme Eminem au début des années 2000, de faire connaître et apprécier le rap à des millions de jeunes français qui n'avaient jusqu'alors jamais écouté de hip-hop. Loin des clichés de cité et des messages violents, les morceaux de Nekfeu se veulent plus fédérateurs. Ils comportent également plus de messages d'espoir, sans pour autant délaisser le combat initial du hip-hop qui vise à dénoncer les inégalités. Pour la première fois avec Nekfeu, les jeunes accèdent ainsi à ce que beaucoup vont appeler plus tard le rap technique. Le reste de l'histoire, on la connaît tous. Le rap devient à la mode et des dizaines et dizaines de nouveaux rappeurs se mettent à péter en quelques années.
L'ascenseur est en panne au paradis.
C'est bloqué à Pomba, je fais big rap dans l'escalier.
La sacoche est remplie. Je crois que je vais tout baiser, finir sur BFM TV.
Tout ça comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sur le bon couche.
Je suis pompé, pompé dans la navette et je barre au
c'était avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi.
J'avais zéro dans les poches.
Qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge ou noir, je suis dans le casino. Je n'ai pas du tout besoin d'allier. Je les entends tous parler.
Complètement rejeté de la population française quelques années auparavant, le rap devient alors, en l'espace de 3 ans, la musique la plus vendue et la plus écoutée en France. De l'autre côté de l'Atlantique, tout se passe aussi très bien pour le rap US. Les Kanye West, Drake, Kendrick Lamar, Young Thug ou encore Travis Scott sont eux aussi des chanteurs mainstream dans un pays où la culture hip-hop est plus que jamais d'actualité. Ça y est, on y est enfin arrivé. Le hip-hop a brisé ses chaînes et n'est plus rejeté par la société. Partout dans le monde et en France, tout le monde écoute du rap, même les hommes politiques.
Je pense que la pénibilité des anciens n'est pas une affaire d'amis imaginaires et d'ailleurs, elle est très présente même dans la culture populaire. Moi, je vous invite à écouter par exemple un rappeur comme SCH. Il dit « Se lever pour 1 200 euros, c'est indécent. » Et je finirai en paraphrasant un autre rappeur, Jules, qui dit « Personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite. »
Tout le monde veut sa palette, personne veut soulever des palettes.
Ok, tout le monde écoute du rap. Les députés citent du SCH à l'Assemblée, c'est cool. Mais la situation sociale du pays s'est-elle apaisée pour autant? Bah pas vraiment, voire pas du tout. Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, un jeune homme à la peau noire, se fait arrêter par la police et décède quelques heures après un contrôle musclé réalisé par les forces de l'ordre. Un an plus tard, c'est l'affaire Théo qui viendra rajouter de l'huile sur le feu et attiser la colère des quartiers populaires. De plus, le pays est toujours en proie à de violents propos racistes proférés par l'extrême droite. Les élections présidentielles arrivent à grands pas et Marine Le Pen est assez haut dans les sondages. La situation en France semble alors désespérée et de nombreuses vagues de protestations contre le système raciste et la police apparaissent dans la sphère rap.
13 blocs,
Jossman, Gizmo et bien sûr comme toujours Nekfeu montent alors à la charge.
Dehors les nœuds je galère alors ça t'effrit des lames. Les politiciens courent toujours mais pour ça les flics te ramènent.
Le C4, les vols en France, Afrique que t'as pillé. Si nos pays sont riches c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Toujours les mêmes qui profitent mais t'emporteras pas ton or proche.
Ils veulent qu'on soit comme des moutons, qu'on obéisse de par deux. Mais fuck un berger, l'homme ne peut être guidé que par Dieu. Fuck le chétan, fuck un banquier, fuck un putain de président. Qui ne veut pas le bien du pays duquel je suis résident.
Juste pour voir la finance qui tire les ficelles de la démocratie. Mais moi je suis blanc, donc bénéficiaire de leur système raciste.
Je suis à foutre le cœur, je m'achète une paire et je prends la même pour mon fils. Je lui apprends nique la police.
Nique la police, nique la police. J'ai ces trois points sur mon sage-vie.
Enfin, le 25 mai 2020, un terrible événement se produit dans l'état du Minneapolis, aux États-Unis. George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, se fait assassiner par Derek Chauvin, officier de police blanc de 44 ans. Les démons du passé ressurgissent, c'est le retour à zéro. Après plusieurs mois de révolte, la situation s'apaise petit à petit. Le mouvement Black Lives Matter aura tout de même fait naître aux États-Unis et partout dans le monde un sentiment d'indignation générale. L'essence première du hip-hop semble alors renaître de ses cendres. On pensait en avoir fini avec le racisme, et bien non. Il faut agir, il faut dénoncer, il faut combattre ces crimes racistes qui se déroulent partout dans le monde.
Trop de racistes dans ce siècle, ils veulent exclure les minorités contrôlées par. Alors qu'il n'y a pas plus français que de protester contre l'État.
Bizarre, je me fais contrôle seulement quand je suis avec arabe et noir.
Dans mon équipe, j'étais le seul qu'on essayait de quêtera. Et j'étais le seul que la police contrôlait pas.
J'ai pu traverser les frontières, mais pas comme un jeune Afghan. Un petit arabe qui fait des bêtises, c'est un voyou pour la France. Un petit noir, c'est pareil, mais quand c'est un petit blanc, c'est juste un chenapan.
Marine Le Pen extrêmement à droite, Philippe Flingo extrêmement à droite.
Un peu innocent, un peu coupable, chaque contrôle de police me rapproche de mon fut avec Tupac.
Pour combattre les injustices, je crois que les effectifs manquent. 2020, un noir meurt, genou sur la nuque. On ira protester, on va pas gêner sur l'avenue. J'en ai marre de voir des crimes devenus presque perpétuels. Vouloir la paix peut tuer.
Genou sur le cou, ok. On a brisé les chaînes hier, aujourd'hui on brise le silence.
Je me demande plus qui sera le prochain Zidane. Mais qui sera le prochain George Floyd?
La deuxième étoile au-dessus de la tête du coq n'a pas stoppé ce que les poulets font.
Ici y'a rien qui pousse, va le dire aux racistes. La France c'est une terre aride. Votez pas pour les fachos, la France va plonger sous-marine.
Partir vite, je vais partir loin. Blanc comme neige ou comme la blouse des scientifiques. Même dans 50 ans je serai anti-flic.
Le racisme est donc partout en France et les rappeurs issus de quartiers populaires se doivent de remonter à la charge et de dénoncer ces inégalités qui persistent. Pour nuancer un peu ce propos, on peut tout de même dire qu'un sentiment de fierté nationale reste plus que présent dans la sphère rap, notamment avec l'amour pour l'équipe nationale de football et la fierté d'être à la fois français et originaire d'une autre culture.
Mais frérot, on est français les gars, arrêtez de vous mitonner. On communique en français, on est payé grâce à la langue de Molière qu'on utilise. Hein?
C'est quand tu vas à l'étranger, tu dis que t'es français?
Tu dis que t'es français, frérot. Quand je suis au Mexique, je leur dis pas que je suis congolais. Hein. Je sors mon passeport, je suis bien content d'être français, t'inquiète pas. Bah, la tête de ma grand-mère, faut pas se mentir aussi.
Ouais, mais c'est...
Et je vais au bled, je suis français. Hein. Tu vois? La France est mon pays, trop bien, je rappe avec Nekfeu, un blanc. Tu vois, c'est quoi? Eh, hey, la France c'est mon pays, c'est notre pays là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis content, moi, quand Mbappé gagne la Coupe du Monde. Alors, frérot, pas oublier aussi. Après, on est fiers de nos origines, du pays de nos darons et tout. Mais je peux te dire que, tu vois, peut-être qu'on n'est pas tout à fait tout le temps d'accord avec ce qui se passe dans notre pays, mais c'est notre pays, tu vois. Mmh. Ça veut dire, faut pas l'oublier.
Malgré la gentrification du rap, avec Nekfeu, et la démocratisation du hip-hop en France, qui a permis de rassembler les communautés, les cicatrices du passé semblent donc être plus profondes. Plus profondes, voire trop profondes. Le milieu du rap ne supporte plus cette hypocrisie et surtout cette violence à répétition perpétuée par un système injuste et inégalitaire. En juin dernier, c'est un adolescent de 17 ans, Naël, qui se faisait tuer par un gendarme français lors d'un contrôle de police. La tension est intense partout en France. L'extrême droite semble remonter très haut dans les sondages. Le combat du mouvement hip-hop, 50 ans après, ne semble toujours pas être fini.
Y'a un espoir tant qu'on avance, tant qu'il restera une pensée contraire à la dominante. Tant qu'on pourra s'élever spirituellement, échappant aux forces abominables qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment.
Tu disais, toi, ça t'arrivait en 2018, là on est en 2024. Est-ce que c'est un peu triste finalement de se dire que on n'a pas tiré les leçons, quoi, que ça arrive de nouveau, que médiatiquement on en parle et que voilà, c'est...
Moi, je suis pas vraiment surpris des choses. Je trouve que faut juste les faire avancer, mais je suis pas vraiment surpris des choses. Le monde fonctionne comme ça. Moi, j'ai une vision peut-être très dure, mais qui est très réaliste des choses. Il faut toujours se battre. Ça va pas cesser. Ça ne peut pas arrêter. Il faut toujours se battre. Il faudra toujours le faire, mais avec la tête haute, pas en victime.